Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Il y a bientôt 30 ans, en 1994, entrait en vigueur le nouveau droit de la mer signé en 1982, les fameux accords de Montego Bay en Jamaïque qui ont bousculé la géoéconomie politique mondiale avec la création de zones économiques exclusives et conféré à la France le deuxième domaine maritime du monde, tout juste derrière les États-Unis. En son temps, le génie anglais fut d'avoir compris bien avant les autres que la mer constituait la plus vaste zone de libre-échange au monde. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel regard et quelle attitude les puissances mondiales ont-elles vis-à-vis de cette nouvelle frontière? Recouvrant près de 72% de notre planète, la mer forme un univers à plusieurs dimensions, recelant une biodiversité et des quantités de potentialités insoupçonnées. Regard sur ce droit de la mer qui bouleverse les équilibres entre les puissances et la révolution géographique impulsé par les routes du Nord, à l'occasion de la parution de Géopolitique de la mer qui vient de paraître aux éditions Erol, coécrit par Julia Tass et Sébastien Abyss. Julia Tass, vous êtes responsable du programme Climat, Énergie, Sécurité et chercheuse à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter et chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Et par téléphone, Antoine Le Garec, directeur général de la société familiale du même nom, société basée à Boulogne-sur-Mer, spécialisée dans les produits de la mer. Bonjour Antoine Le Garec.
Bonjour à tous.
Alors, sachant que c'est dans les terres marines proches des terres émergées que se trouve l'essentiel des matières premières et des ressources halieutiques, on comprend aisément la détermination des pays les plus avertis, États-Unis, Canada, Russie, Chine, à se doter du plus grand domaine maritime possible. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes sont donc amenés à se battre, non plus pour des terres continentales, mais pour des îles et surtout pour l'espace maritime auquel elles donnent accès. Le maritime explique beaucoup dans les trajectoires de puissance observées ces dernières années. Les puissances ont commencé à prendre la mer au sérieux, pas toutes et au même moment. On parle d'un nouveau temps de l'histoire, l'océano-temporain, et l'ensemble marin est devenu l'enjeu d'une compétition internationale accrue. Un commentaire, Julia Tass, sur cette présentation?
C'est quelque chose qu'on observe de manière de plus en plus forte, cette projection des puissances en mer. Je ne sais pas si c'est un phénomène nouveau, mais c'est un retour. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes durant lesquelles la puissance passait par le maritime, c'était affiché et ça, le maritime a joué un rôle clé pendant les premières et secondes guerres mondiales. Donc ça a toujours été le cas, mais c'est finalement un véritable retour en mer que l'on peut observer parce qu'on se rend compte aujourd'hui de l'importance du trafic maritime pour ce qui est de la mondialisation, que ce soit les échanges de produits manufacturés, notamment le vrac, mais aussi pour les échanges numériques. On en parlera peut-être avec les câbles sous-marins. Et puis parce qu'on a tout simplement davantage de moyens pour aller en mer. C'est aussi lié au progrès technologique pour moi, ce retour à la mer, cet intérêt croissant pour la mer, parce qu'on peut aller plus loin, on peut aller plus profond et on peut poldériser de plus en plus les espaces maritimes. Et donc c'est finalement parce que c'est possible qu'on s'y projette aussi.
Votre commentaire, Antoine Le Garec, sur ce qui vient d'être dit par Julia Tass et peut-être la présentation?
Non, bah écoutez, effectivement, je pense que la mer et en tout cas la zone économique française, les gens ils sont de plus en plus sensibles et effectivement les progrès technologiques permettent de se projeter un petit peu mieux, mais ça reste quand même des milieux particulièrement méconnus et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cet attrait et cet engouement, quoi, hein. C'est-à-dire que les gens pressentent quelque chose et du coup ils s'y projettent très fortement.
Sébastien Abyss, alors j'ai une question, peut-être vous souhaitez réagir à ce qui s'est dit jusqu'à présent, mais j'ai relevé une chose dans l'ouvrage que vous avez coécrit donc avec Julia Tass, abordant la question de l'assise de la puissance des États-Unis dans le monde, qui est aussi bien sûr maritime, militaire et technologique, avec des ancrages territoriaux nombreux. Vous posez néanmoins la question de savoir si le 21e siècle sera aussi maritime que le précédent dans la grammaire du pouvoir proposé par Washington.
Oui, parce que
En fait, on voit bien que cette mer qui fascine, qu'on méconnaît, qui est pourtant ultra dominante sur le globe, hein, vous l'avez dit, plus de 2/3 des surfaces de la planète, donc notre planète est très mal nommée, c'est la planète mer, c'est pas la planète Terre, en fait, si on veut correctement la caractériser. Cette mer qui relie, cette mer qui a fait des liens dans l'histoire, Julia a évoqué un peu les remous, justement, de l'histoire, la mer qui est dominante dans les stratégies de puissance, ou au contraire, qui est un peu désertée, pour différentes raisons. Mais cette mer, c'est aussi un démultiplicateur de puissance. Et c'est vrai que les États-Unis ont très clairement aussi investi le maritime assez tôt dans leur développement à l'international. C'est aujourd'hui la plus grande zone maritime du monde, hein, en superficie, suivie par la France. Et c'est vrai que la force militaire américaine, très fortement exprimée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, durant lesquelles d'ailleurs deux batailles décisives dans le narratif stratégique pour Washington, que ce soit Pearl Harbor ou les batailles dans le Pacifique pour vaincre le Japon, les États-Unis se sont appuyés sur le maritime pour contrôler l'espace mondial et, quelque part, rayonner au niveau international. Est-ce que les États-Unis ont maintenu un tel dispositif en entrant dans le XXIe siècle ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et pendant ce temps-là, la Chine, elle, a eu cette ambition maritime. Et donc, c'est vrai que la mer est un démultiplicateur de puissance et d'ambition. On voit bien que les États-Unis, au XXe siècle, après la Grande-Bretagne, au XIXe siècle, y compris dans ce registre, bah aujourd'hui, la Chine va de l'avant sur le maritime à l'image de sa stratégie de conquête d'influence à l'international. Et c'est vrai que le maritime, il faut le regarder aujourd'hui dans ses trois dimensions spatiales, hein, mais aussi dans ses trois dimensions de puissance, c'est-à-dire un des multiplicateurs d'ambition, la Chine, un des multiplicateurs de vulnérabilité. Prenons l'exemple de l'Ukraine, dont la guerre depuis 3 mois bride l'ensemble de l'économie ukrainienne, asphyxie le développement, le commerce de ce pays. Et nous voyons que la non-possibilité d'exporter ou d'importer depuis la mer Noire, en fait, étouffe l'Ukraine, étouffe l'économie ukrainienne. Et la Russie a bien compris ce point de fragilité pour le voisin ukrainien. Et puis, la mer, c'est aussi le révélateur de contradictions. Et là, pour le coup, on voit bien que l'Europe ou la France qui pourraient être des grandes puissances bleues, à la fois sur leur taille maritime, leur économie, leur investissement sur le terrain du développement durable autour de la mer, se pensent pas forcément comme des puissances maritimes. Et c'est peut-être là que le 21e siècle va nous surprendre. C'est non pas la Chine, la Russie ou les États-Unis, mais peut-être l'Europe et la France qui auront un récit à faire sur le maritime.
Alors, bien sûr, on va développer tout ça. Et en préparant cette émission, je suis retombée sur cette déclaration de Fernand Braudel, disant que la France aurait peut-être un autre visage si Rouen avait été la capitale de notre pays. Alors, pour nos auditeurs, Rouen, c'est la Seine, avec point d'ancrage maritime le Havre. Alors oui, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est tout à fait intéressant et on reviendra sur la France pour évoquer peut-être son réveil tardif par rapport au maritime. Je voudrais rebondir, Juliatas, avec vous sur la Chine, qu'effectivement on voit quitter son centre continental pour se projeter résolument vers les mers, alors que plus qu'aucun autre pays, finalement, la Chine a bien souvent tourné le dos à la mer. Et elle court, la Chine, à pas de géant vers sa maritimisation. L'ouverture de la Chine à la mer, c'est le tournant historique actuel, Juliatas.
Alors, l'ouverture, en tout cas, d'un point de vue militaire, oui, ça, c'est très clair. Après, il faut rappeler que l'ouverture de la Chine à la mer, elle date des années 80-90, avec l'entrée de la Chine dans la mondialisation, puisque c'est aussi une vulnérabilité, ça a été rappelé par Sébastien Abyss. La Chine, aujourd'hui, exporte à travers la mer. Et donc, on l'a vu avec ce qui s'est passé durant les confinements liés au Covid, ne pas pouvoir exporter, c'est aussi une vulnérabilité. Et donc, la Chine s'est tournée vers la mer dès les années 80-90. Aujourd'hui, ce qui change la donne, ce sont les investissements chinois en termes militaires. Et notamment, la politique et du fait accompli que l'on peut observer dans la mer de Chine méridionale, au sud de la Chine, où, en fait, Pékin essaye de projeter les forces chinoises de telle manière que l'on ne puisse pas les déloger de la mer de Chine méridionale. Il y a par exemple des archipels, des petits rochers, des îlots, qui sont en train d'être poldérisés par la puissance chinoise, de manière à ce qu'elle puisse après dire que, étant présente sur ces terres, ces îlots lui reviennent. Aujourd'hui, c'est un des points chauds en termes maritimes autour du monde, la mer de Chine méridionale, parce que de l'autre côté, on a ce qui a été notamment rendu concret par Montego Bay, la convention de Montego Bay en 1982, la liberté de navigation. Et donc, tant que des espaces maritimes ne sont pas considérés par le droit international comme relevant de la souveraineté d'un pays, on a le droit d'y naviguer de manière libre. Et donc aujourd'hui, il y a toute cette dynamique en mer de Chine méridionale avec la Chine qui tente d'y apposer vraiment sa présence et les acteurs américains, européens, qui y passent pour revendiquer cette liberté de navigation.
Alors on comprend mieux toute la politique effectivement de la Chine dans, dans sa région autour de la question des îles qu'elle dispute à d'autres puissance régionale. J'ai ce chiffre tout à fait intéressant, c'est la part du maritime dans le produit intérieur brut de la Chine. Il dépasse aujourd'hui les 9%, un record très éloigné des 3 à 5% qui se déclinent dans les pays européens. Vous souhaitez réagir, Antoine Le Garec ?
Moi, sur la Chine, ce que j'avais envie de dire en entendant tout ça, c'est que même au niveau des ressources, ils sont très actifs. Hein. Il faut voir un petit peu tous les villages de pêcheurs qui peuvent être financés au niveau du Maroc ou bien d'autres pays africains pour essayer d'avoir un accès justement aux ressources du pays, ou bien alors après par des méthodes un petit peu moins légales sur d'autres pêcheries, notamment de l'océan Indien comme la crevette à Madagascar. Il y a certainement d'autres choses qu'on ne connaît pas ou dont on n'est pas forcément mis au courant. Mais c'est vrai qu'ils placent leurs pions progressivement et aussi pour avoir un accès beaucoup plus facile aux ressources alimentaires.
Mmh. Antoine Le Garec, on dit que les pêcheurs chinois sont partout. Vous confirmez à vous entendre cela,
oui, oui,
d'une manière directe ou indirecte, mais en tout cas...
Non, ils sont partout, ils sont sur tous les océans, ils sont sur toutes les mers. Les marins, d'ailleurs, ont des conditions de vie qui sont très difficiles, parce que souvent, ils partent pour plusieurs mois, et je peux même dire pour certains, pour plusieurs années. C'est très peu contrôlé, mais effectivement, ils ont une présence globale.
Sébastien Abyss, un commentaire.
Oui, sur la Chine, parce que en fait, cette Chine vis-à-vis du maritime, c'est une Chine ancienne. On se revient des grandes conquêtes maritimes de l'amiral Zheng He. Et puis, il y a eu une longue parenthèse, la muraille de Chine, l'enfermement continental du pays, le déclin d'ailleurs un peu de la puissance chinoise quand la Chine s'est tournée contre la mer. Le réveil thalassocratique de la Chine, en gros, il a 50 ans. C'est les grandes réformes de Deng Xiaoping, l'ouverture sur l'économie, les zones exclusives commerciales sur le littoral à l'est du pays, incarnées par Shanghai. Shanghai qu'incarne la domination chinoise aujourd'hui sur le commerce mondial maritime, avec le classement des plus grands ports dans le monde de porte-conteneurs, alors dominés par Shanghai, mais sur les 10 plus grands aujourd'hui dans le monde, 7 sont chinois. Donc aujourd'hui, les conteneurs qui expliquent une partie de la mondialisation de ces dernières années, c'est surtout un grand balai logistique entre la Chine et le reste du monde. Cette sino-mondialisation économique dont on a souvent parlé. Et c'est vrai que ces dernières années, qu'est-ce que la Chine a fait en plus sur le terrain maritime ? Elle a été très fortement sur le terrain géopolitique, investissement, infrastructure logistique avec les routes de la soie, qui ont une dimension terrestre, mais aussi maritime, le collier de perles tout au long de l'Asie. Sur le terrain militaire, Julia l'a évoqué, avec deux symboles, deux porte-avions, dont un porte-avions 100% chinois récemment, une première base militaire à l'étranger, qui est une base navale à Djibouti, d'ailleurs là où il y a à peu près toutes les armées du monde. La Chine a mis aussi son premier terrain d'expression extérieure dans ce petit pays africain, mais qui a une taille immense sur un planisphère, si on regarde sa valeur stratégique. Et puis la Chine, c'est aussi de plus en plus les ressources de la mer, les ressources de la pêche pour nourrir, déterminant, les ressources aussi énergétiques qu'elle convoite dans l'Arctique, qu'elle convoite dans un certain nombre de mers du monde. Et puis ça va être aussi l'aspect scientifique et technologique, à la fois les caps sous-marins de plus en plus posés par la Chine et ses entreprises, parce que les grands géants du numérique chinois ont besoin aussi de cette circulation des data au fond des mers. Mais cette technologie, ça va être aussi des drones sous-marins pour mieux cartographier le fond des océans, où on convoite et on spécule sur de nouvelles ressources, de nouvelles solutions. Et la Chine aussi est en train de mettre le turbo sur cette cartographie scientifique des abysses qu'on ne connaît absolument pas, puisque 90% des fonds marins nous sont méconnus. Je dis toujours ce que disent les spécialistes des fonds marins, c'est qu'on connaît bien mieux la Lune que le fond des océans.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, on poursuit un petit peu. On a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine. On n'a évidemment pas tout dit, mais il faut avancer. Quelques mots sur l'Union européenne et puis la France dans cette Union européenne, Julia Tass. La France, donc deuxième puissance maritime. Je le disais précédemment, un réveil assez, assez lent, sans vouloir dire tardif, de la France sur le maritime. Enfin, il n'y a pas de grands ports français internationaux à l'échelle d'autres ports, on peut s'en étonner.
Oui, on peut s'en étonner. On a effectivement la deuxième surface maritime mondiale et on s'en préoccupe pas tant que ça parce que la France est un pays continental. Nos voisins sont plutôt continentaux et contrairement à la Grande-Bretagne qui doit nécessairement passer par la mer pour échanger, la France peut très bien échanger uniquement avec ses voisins continentaux. Donc on s'est toujours tourné vers l'Europe, vers le reste du continent européen et très rarement vers le large, sauf certaines régions françaises qui, elles, ont un passé, une histoire maritime. L'essentiel du pouvoir étant à Paris, on l'a dit, on se tourne davantage vers le continent. Et c'est finalement cette facette continentale de la France qui a régné pendant un certain temps avec certains souverains qui se tournaient vers la mer parce qu'ils avaient cette appétence, cet intérêt, mais par défaut, j'ai envie de dire, qu'on se tourne davantage vers le continent que vers la mer en France. Alors que la France métropolitaine, si elle échange avec ses voisins continentaux, l'État français est aussi ultramarin. On a des îles partout autour du monde qui, elles, dépendent de la mer très fortement pour leurs échanges, qui sont des espaces maritimes et des cultures maritimes très fortes. Et aujourd'hui, on prend conscience de cet atout. On prend conscience de cet atout parce qu'il nous donne à la fois la possibilité d'être présent partout autour du monde, de disposer de ressources incroyables et puis de revendiquer, de légitimer une potentielle puissance maritime. Et ça s'est concrétisé assez récemment avec la création d'un ministère de la mer en 2020, qui aujourd'hui est repassé au rang de secrétariat d'État, mais qui reste quand même relativement neuf pour ces dernières décennies et qui montrait une impulsion politique de vouloir harmoniser, rendre cohérent une certaine politique maritime. Et si c'est un sujet au niveau français, cette cohérence de la politique maritime, c'est un sujet encore plus important au niveau européen, où on dispose aussi d'atouts très forts, que ce soit en termes de transport, comme de pêche, etc., mais qu'on ne formalise pas. Et aujourd'hui, c'est toute la question, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, formaliser cette puissance bleue en potentiel.
Ce qui pourrait effectivement donner à l'Union européenne une puissance inégalée et en tout cas ouvrir des horizons. Antoine Le Garrigue, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à nous dire en réaction à ce que vient de dire Julia Tass sur le réveil le réveil français vis-à-vis du maritime. Et ce qui m'intéresserait peut-être, alors on n'a pas beaucoup de temps et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, c'est comprendre ce qu'ont changé les accords de Montego Bay avec cette création de zones économiques exclusives pour une société comme la vôtre et votre travail. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'une société familiale, Le Garrigue, basée à Boulogne-sur-Mer et spécialisée dans les produits de la mer, Antoine Le Garrigue.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Concernant les ports français, nous, on a des entrepôts frigorifiques basés à Dunkerque et au Havre. Et je dois dire qu'il y a quand même une prise de conscience, et notamment au niveau de Dunkerque, il y a un développement qui est absolument, je trouve, important. En plus, ils ont une chance folle, c'est qu'ils ont une réserve foncière qui est très importante grâce aux différents dirigeants précédents qui ont racheté petit à petit des terrains et qui leur permettent aujourd'hui d'avoir cette réserve foncière. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas quand même complètement fini le travail, entre guillemets, et je pense qu'il y a des développements forts à venir. Après, c'est vrai qu'on a eu un retour du ministère de la mer. On attendait beaucoup, mais par contre, la mer est un domaine tellement vaste que beaucoup de sujets sont partagés au niveau des ministères, et ça complique souvent encore la prise de décision, parce que quand vous avez plusieurs ministères responsables ou devant intervenir sur un sujet, souvent ils considèrent que c'est à l'autre ministère de se prononcer.
Chacun se renvoie la balle. Je vous interromps, Antoine Le Garrigue, qu'on vous retrouve après le journal, ainsi que Sébastien Abyss et Julia Tass sur ces questions de pêche et autres perspectives maritimes. On se retrouve après le journal, à tout de suite.
Priorité géopolitique, Marie-France Chatin.
La mer, nouvelle frontière, nous retrouvons nos invités. Julia Tass, responsable du programme Climat, Énergie, Sécurité et chercheuse à l'IRIS. Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde. Julia Tass et Sébastien Abyss qui ont co-écrit Géopolitique de la mer qui vient de paraître aux éditions Erol. Et par téléphone, Antoine Le Garec, directeur général de la société familiale du même nom, société basée à Boulogne-sur-Mer, spécialisée dans les produits de la mer. Antoine Le Garec, je vous ai interrompu à la fin de la première partie de l'émission pour laisser place au journal. On abordait ce réveil français vis-à-vis de la mer et vous nous expliquiez que la création d'un ministère de la mer ne résolvait pas forcément d'une baguette magique toutes les problématiques liées à cette question.
Non, justement, et donc je reprends un petit peu l'exemple sur lequel j'étais concernant les sujets qui peuvent concerner plusieurs ministères. C'est vrai que la prise de décision est toujours un petit peu compliquée. J'ai un exemple concret justement sur un projet de pêche expérimentale qu'on pouvait avoir depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, finalement au-delà des 200 000. Au-delà de la ZEE française, mais aussi de la ZEE canadienne, parce que la particularité de la ZEE de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est qu'en plus, elle est au sein de celle du Canada avec aucun accès aux eaux internationales. Mais du coup, ça nous a complètement biaisé puisque par rapport à ce développement de pêche exploratoire, on était entre deux ministères, celui des Affaires étrangères et celui du ministère de la Mer. Et c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à trouver le bon accès. Donc, là, vous voyez, on a des projets, on a des envies de développer certaines ressources, mais c'est difficile.
Alors, on va quitter Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada pour revenir à un coin que vous connaissez bien, Antoine Le Garec. C'est la Manche qui est l'une des mers les plus fréquentées du monde avec 20% du trafic maritime mondial, une véritable autoroute. Alors, avec le Brexit et le durcissement de la législation britannique en matière d'accès au Royaume-Uni, la Manche, mer commune, redevient une véritable frontière entre la France, mais l'Europe et le Royaume-Uni. De plus, la Manche est poissonneuse, les pêcheurs du Kent et du Sussex d'un côté, les Normands et les Bretons de l'autre se livrent une véritable bataille depuis des siècles pour l'accès aux mêmes ressources. Et là, le Brexit est tombé comme un couperet. C'est vrai que Londres doit maintenant attribuer des licences de pêche dans les eaux britanniques aux pêcheurs français et le quart du total des captures françaises sont effectuées dans les eaux britanniques, alors que 70% des produits britanniques de la mer sont exportés vers l'Europe. Il y a un vrai risque avec ce Brexit d'une exclusion graduelle des pêcheurs français, Antoine Le Garec.
Oui, je pense qu'en tout cas, il y a un risque après 2026. Là, je pense que maintenant, on est plutôt sécurisé justement jusque 2026. En fait, je récapitule, il y avait eu une période de transition entre 2021 et 2026 où finalement, on avait une stabilité de l'existant. Mais le vrai Brexit, finalement, aura lieu après cette date-là et on peut craindre le pire parce qu'on sent déjà que les Anglais sont bien présents. Dès que le Brexit a été mis en œuvre, par exemple, ils ont commencé à mettre en place leurs propres mesures techniques qui ont pu gêner les pêcheurs français. C'est vrai que ça, on ne s'y attendait pas ou en tout cas, on n'y était pas prêt du côté des pêcheurs français. On avait aussi une diminution de 25% de nos captures réparties justement entre 2021 et 2026. Mais un peu la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? Et c'est là où on aimerait bien justement que l'Europe, puisque là c'est à l'Europe d'anticiper, la France finalement n'a que peu de pouvoir, se projette un petit peu plus.
Alors il y a un rapport sénatorial qui a été rendu public il n'y a pas très longtemps, Sébastien Abyss, qui met en exergue la nécessité de continuer à se battre pour défendre les pêcheurs français. Et il fustige ce rapport, la mauvaise foi de Londres, mais aussi la passivité de la Commission européenne et la difficulté de Paris à défendre une filière qui représente, je sais que vous aimez bien ces expressions, de la mer à l'assiette, environ 100 000 emplois et pour la seule activité de pêche, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Je crois que quand on parle de la géopolitique de la mer, avec d'un côté les risques, les tensions, les confrontations, mais aussi les solutions, les apports, les ressources et tout ce que la mer procure pour notre quotidien, l'exemple de la pêche est assez éclairant. Assez vite, on savait que les pêcheurs au Royaume-Uni avaient été des Brexiteurs durs. C'était la reconquête des eaux territoriales britanniques, la critique sur l'Europe et sa politique commune de la pêche, le fait que des pêcheurs de France, de Belgique, des Pays-Bas, venez dans les eaux britanniques. Et Michel Barnier, dans sa mission, du début à la fin, a toujours dit qu'il y aurait deux sujets cristallisant absolument tous les problèmes, la frontière irlandaise et le sujet de la pêche. Et Antoine Le Garec vient de l'indiquer, on a mis en place une période transitoire, mais on ne sait même pas ce qui va se passer à partir de 2026. 2026, c'est demain, ça va aller très vite. Mais la pêche, au niveau français ou européen, il faut la remettre aussi dans un contexte mondial. On a très clairement des consommateurs dans le monde qui, pour leur sécurité alimentaire, ont besoin aussi des produits de la mer. On a un peu tendance à toujours dire que seuls les produits de la terre comptent. Ben non, aujourd'hui, 20% des calories consommées proviennent des produits de la mer. Et ces produits de la mer, ils sont en plus une alternative principale, puissante à la viande, dont on dit qu'il faut réduire nos consommations. Donc en fait, la plupart des consommateurs qui réduisent la viande vont aller chercher de la protéine dans les produits de la mer. Or, nous avons des problèmes avec la protéine de la mer. Premier problème, c'est que les ressources sont très inégalement réparties, les jeux de puissance ne se font pas à armes égales, la Chine ne joue pas le jeu et va pêcher dans des zones qui ne lui appartiennent pas. Nous avons également de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, donc on a un problème de pêche qui se fait hors la loi. Et nous avons également une surexploitation des ressources de la mer, toute la problématique de la durabilité maritime, la pêche incarne cette tension-là. Et donc, on peut très bien imaginer demain que nous arrivions à une interdiction radicale de la pêche dans le monde, en misant du coup sur l'aquaculture pour apporter les produits de la mer sur les littoraux ou par voie terrestre. Mais la pêche, elle est au cœur de plein de tensions. Et la pêche, en plus, elle se retrouve parfois compromise dans certains pays parce qu'on va utiliser des pêcheurs et leurs bateaux pour transporter des migrants en leur payant sur une route l'équivalent de leur salaire annuel par l'activité de pêche. Donc au détriment de la pêche et donc des poissons qui arrivent pour la sécurité alimentaire côtière des communautés. Bref, la pêche, elle incarne aussi cette géopolitique de la mer en positif et en négatif.
Alors, j'allais justement vous passer la parole, Antoine Le Garec. Cette interdiction de la pêche, c'est quelque chose qui rentre dans l'éventail de vos réflexions?
Alors, il faut savoir que ça va faire quasiment un siècle qu'on est armateur à la pêche, puisque c'est mon arrière-grand-père qui avait créé ça en 1930 à partir de Boulogne-sur-Mer. Donc aujourd'hui, étant donné le contexte international et l'évolution du monde, oui, on est obligé d'y penser. Mais en tout cas, on n'est pas y penser à court terme ou à moyen terme, mais à plus long terme, je pense que c'est une réflexion qu'on est effectivement obligé d'avoir. Je voudrais juste revenir sur les conséquences du Brexit et ces jeux de pouvoir aussi un petit peu qui sont sous-estimés, parce que le Brexit, on pense souvent qu'à l'accès aux eaux britanniques ou au fait d'être exclu des eaux britanniques, mais le jeu était beaucoup plus vaste que ça, puisque faut pas oublier qu'on a des bateaux français qui vont fréquenter aussi les eaux de la mer du Nord. Dans les eaux de la mer du Nord, la politique commune des pêches dépend d'accords avec d'autres pays limitrophes, type la Norvège. Et donc, il y avait un accord très important pour l'Europe qui était l'accord Union européenne-Norvège. Et cet accord-là a été complètement remis en question, mais d'une manière globale, puisque c'est devenu un accord tripartite entre l'Europe, l'Angleterre et la Norvège. Et sauf que le rapport de force est complètement revu pour l'Europe, puisque la Norvège n'y voyait un intérêt à cet accord-là uniquement pour que leurs bateaux puissent aller pêcher certaines espèces, notamment pélagiques, dans les eaux britanniques. Donc finalement, après eux, avoir un accord avec l'Europe, il est tout de suite beaucoup moins attrayant. Et là aussi, ça va créer des tensions, mais plus en intracommunautaire qu'avec des pays tiers du type Angleterre et Norvège.
Et tout cela se traduit dans des choses concrètes, c'est-à-dire que votre société est amenée à réorienter peut-être vos zones de pêche, finalement, Antoine Le Garec, avec ce que nous évoquions précédemment, ce sont les départements et territoires d'outre-mer. Enfin, comment cela se passe-t-il ?
Alors nous, on l'a anticipé il y a vraiment très longtemps, parce que ça a commencé dans les années déjà 70, avec la mise en commun des des ressources halieutiques, mais on a vu aussi durant toute cette période-là la tendance que ça allait prendre. Nous, on a quitté quasiment complètement les eaux justement de la mer du Nord en 2010, et c'est vrai qu'on s'est réorienté vers des pêcheries en Outre-mer, notamment dans les terres australes et antarctiques françaises à partir de La Réunion, et puis à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou alors dans les eaux française métropolitaine, mais effectivement, ça nous a amené à complètement revoir notre stratégie au niveau de la pêche.
Merci pour cet éclairage tout à fait intéressant. Je reviens en studio avec vous, Julia Tasse. Alors, pêche et transport ne sont plus les deux seules activités que l'homme pratique. Il y a aussi la mer et les fonds marins. Sébastien Abyss l'a évoqué, qui se trouve maintenant au cœur des principaux enjeux économiques et scientifiques. Alors, les télécommunications spatiales qui avaient pu laisser penser que l'ère des câbles océaniques était révolue, finalement, l'apparition des fibres optiques qui offrent des capacités de transmission considérables les a replacées au premier plan avec le développement mondial de l'Internet. Qui sont les puissances qui sont les plus présentes dans ce domaine, Julia Tasse ?
Alors là aussi, c'est vrai qu'on observe un grand changement ces dernières années et c'est beaucoup plus récent que tous les changements dont on a pu parler jusqu'à présent. Effectivement, aujourd'hui, on estime que 99% des télécommunications, donc à la fois le téléphone, mais aussi Internet, etc., passent par les câbles sous-marins. Donc, on s'imagine que tout passe par l'espace, mais en fait, l'essentiel de nos échanges passe par les câbles sous-marins. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les entreprises qui posaient des câbles étaient essentiellement des opérateurs de télécommunications, c'est-à-dire que des acteurs comme Orange Marine, par exemple, posaient des câbles. Donc les grandes puissances qui posaient ces câbles étaient les puissances qui avaient ces opérateurs de télécommunications. Il y avait l'Europe, il y avait la France notamment, il y avait aussi les États-Unis. Et jusqu'à présent, c'était vraiment ces acteurs-là qui s'assuraient de la pose et de l'entretien de ces câbles sous-marins. Depuis quelques années, il y a eu deux grands changements. Le premier qui a déjà été mentionné, c'est l'arrivée d'acteurs chinois sur le marché, notamment Huawei. Donc les acteurs chinois viennent poser de nouveaux câbles, notamment sur la façade asiatique. Et ces câbles-là, on a peur qu'ils soient espionnés. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu tout un scandale, puisque Trump, lors de son mandat, avait essayé de bloquer la pose d'un câble sous-marin par Huawei en justifiant cet essai, en disant qu'on ne contrôlait pas la manière dont Huawei allait poser ce câble sous-marin et on ne pouvait pas sécuriser les données qui y passaient. Donc ça, c'est un premier grand changement. Le deuxième, c'est l'arrivée des GAFAM sur ce marché. Avec donc des GAFAM qui sont aujourd'hui des acteurs économiques essentiellement américains, qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications, mais qui ont besoin de poser ces câbles pour subvenir, entre guillemets, à leurs besoins de données. Donc Facebook, Amazon vont venir poser des câbles autour du continent africain, notamment, des câbles qui vont être très efficaces et qui vont venir connecter des zones moins connectées au reste de l'Internet mondial. Et le changement que ça opère, c'est que ces entreprises-là sont un peu moins connectées aux services de l'État que ne l'étaient les téléopérateurs. Et donc, on ne contrôle là aussi pas forcément la manière dont ils les posent, où ils les posent, etc. Et ça change la manière dont on va se reposer sur ces câbles sous-marins pour notamment faire passer des informations critiques financières, de santé, militaires, etc.
Alors, Sébastien Abyss, on pensait que la coopération était au cœur de l'appréhension des espaces maritimes. On est sans doute très naïf, de même qu'on avait dit que la mondialisation et les échanges commerciaux allaient pacifier les relations entre les États. Ce qu'on voit, c'est que finalement, des tensions géopolitiques sont très présentes et elles nuisent évidemment à l'efficacité de ces coopérations. Est-ce qu'il faut changer notre manière d'aborder le maritime et de quelle manière ?
Oui, c'est une question importante parce que, en fait, nous, on a aussi fait l'ouvrage avec Julia pour bien insister sur le fait que la mer était en phase avancée sur la Terre, sur deux tensions, à la fois géopolitiques et climatiques. Il y a deux thermomètres qui grimpent aujourd'hui, celui du climat, celui de la géopolitique. Climat qui change, qui se réchauffe, et la géopolitique qui est plus nerveuse, beaucoup plus instable. Et on est loin d'un monde qui est en train d'être solidaire et amical. Et bien, sur mer, on est beaucoup plus dans ce côté far west et inconnu climatique que sur Terre. Donc, en fait, il faut regarder la mer pour peut-être anticiper des choses qui viendraient sur Terre, ou en tout cas prévenir des instabilités supérieures demain sur les espaces terrestres. Donc, c'est vrai que tout porte à vouloir, sur mer, encore plus que sur Terre, être dans des logiques de coopération et de solidarité, en gros, s'unir pour changer, puisqu'il va falloir trouver des solutions à des problèmes immenses, et donc, a priori, essayer de faire fonctionner le multilatéralisme. Or, ce n'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Et il y a un espace qui illustre un peu tout ça, je me permets d'aller y naviguer un instant, c'est la mer Méditerranée. mer Méditerranée, je rappelle, la mer au milieu des terres, cette mer où il y a 3000 îles, cette mer où d'ailleurs on préfère se baigner plutôt que dans le Pacifique, la mer du Nord ou l'Atlantique. C'est quand même un peu plus agréable. C'est pour ça qu'il y a aussi un tiers des flux touristiques mondiaux dans ce bassin méditerranéen. Mais la Méditerranée, elle incarne à la fois ce que le monde pourrait faire pour contrer des problématiques. On sait que la Méditerranée, il y a des enjeux de transport maritime à réguler, il y a des problèmes de surpêche à évidemment limiter, il y a des problèmes de pollution, le sujet du plastique. Mais nous avons aussi en Méditerranée plein d'innovations. C'est-à-dire que la Méditerranée, c'est le dessalement de l'eau de mer. On boit de la Méditerranée en Israël et on en boit de plus en plus en Espagne parce qu'il va falloir aller chercher de l'eau potable par la mer. La Méditerranée, ça va être aussi à l'envers, non pas des solutions, mais des tensions. On voit les projets géopolitiques sur la mer de certaines puissances, la Turquie qui a réhabilité le concept de patrie bleue, par exemple. On voit qu'on a une militarisation aussi de la mer Méditerranée avec l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Grèce ou l'Italie, il n'y a pas que la France, qui ont des armées et des puissances navales en croissance et du coup qui militarisent cet espace méditerranéen. Et on voit que sur le terrain diplomatique, ces dernières années, on a plutôt eu du détricotage, du chacun pour soi, alors que les problèmes, en fait, appellent à plus de coopération. Et la Méditerranée, elle incarne un monde qui aurait besoin d'être beaucoup plus uni, beaucoup plus solidaire. Or, les dernières années sont en train de faire aller à l'envers le multilatéralisme. Et là aussi, la mer est peut-être en phase avancée sur la Terre, et ce n'est pas une bonne nouvelle.
Alors, les questions de difficultés de coopération, je pense qu'Antoine Le Garec, que vous avez des choses à dire, en tout cas la notion d'océan bien commun. Ouais.
Non, mais juste par rapport à ça, ça me fait aussi penser aux conséquences du Brexit, parce que c'est vrai que la première année de 2021, tout le monde n'a pas eu ses licences, mais ça concernait pas uniquement des pêcheurs français, mais bien aussi d'autres pêcheurs européens, et forcément, ils se sont tous rabattus sur le terrain qui restait libre, et donc c'était notamment les 12 000 Français. On a vu justement ces tensions augmenter entre des pêcheurs hollandais, belges, français, et sans que pour autant quelqu'un prenne le sujet à bras-le-corps pour aider les pêcheurs à résoudre le problème et en pensant qu'il fallait qu'ils le résolvent eux-mêmes. Et il y a un autre sujet qui vient se greffer là-dessus, c'est tout ce qui est conflit d'usage avec le développement des parcs éoliens, le développement des parcs naturels. Tout ça ne fait qu'exacerber justement un petit peu les tensions en mer. Et si le sujet n'est pas pris vraiment au sérieux, c'est sûr que ça crée des tensions inutilement.
Des tensions donc qui se multiplient, Julia Tass. On n'a pas parlé de la question non plus de la protection de la haute mer. Et la notion d'océan bien commun, y aurait de quoi disserter longtemps, en quelques secondes.
Oui, alors, pour rebondir sur ce qui a été dit très rapidement, ce qu'on sent, c'est que l'essentiel des enjeux tient à la planification spatiale maritime, qui est un concept qui est assez nouveau, qui se base sur le fait qu'on utilise un même espace maritime pour des usages bien différents et qu'il va falloir se mettre d'accord sur où et comment on utilise la mer. Ça a été fait à l'échelle globale par la Convention de Montego Bay, qui, et on ne va pas rentrer dans ces détails, est extrêmement complexe, parce qu'on n'arrive pas en fait, à vraiment maîtriser le sujet maritime, puisque c'est un espace en 3D, ça a été dit par Sébastien Rabis, et que, étant terrien, on n'est pas habitué à maîtriser un espace en 3D. Et aujourd'hui, il faut répliquer cette organisation maritime sur les zones économiques exclusives, et ça passe par la planification spatiale maritime, et ça devra être fait pour éviter qu'il y ait des conflits d'usage qui sont au cœur vraiment des tensions qu'on observe en mer.
Merci Juliette.
Oui. Si je peux me permettre, du coup, c'est justement là où on attend aussi beaucoup de nos gouvernants, parce que ça fait des années et des années qu'on dit justement qu'il manque une vraie stratégie de la mer, d'où l'importance de ce fameux ministère de la mer et toute cette concertation. Ça fait des années et des années que les pêcheurs le demandent, et je pense que du coup, si on prenait chaque métier, tout le monde aurait la même réaction.
Merci Antoine Le Garec. Je rappelle que vous êtes directeur général de la société familiale du même nom, donc Le Garec, société basée à Boulogne-sur-Mer et spécialisée dans les produits de la mer. Merci aussi à Julia Tass, responsable du programme Climat, Énergie, Sécurité, chercheuse à l'IRIS, et Sébastien Abis, directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde. Vous êtes tous les deux les auteurs de Géopolitique de la mer, qui vient de paraître aux éditions Erol. Géopolitique est dessiné Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À très bientôt.